Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Foisonnant le jour, mais vide hors des périodes de travail, nombreux sont les bureaux inutilisés, parfois plusieurs jours d'affilée. L'association Les Bureaux du Cœur souhaite profiter de cette inoccupation pour les proposer en tant qu'habitat temporaire. Pour discuter de cette association, Margot Dacosta, bénévole de l'association, et Dominique Goubeau, chef d'une entreprise d'accueil en partenariat avec Les Bureaux du Cœur, sont avec nous dans Mégaphone. Bonjour.
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 Alors Margot, vous êtes bénévole à l'association donc Les Bureaux du Cœur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet asso?
Oui, alors il y a pas mal de choses à dire. Moi, je suis bénévole depuis septembre 2024, donc ça fait 7 mois. Au sujet de l'association, tout a débuté en fait avec le CJD de Nantes, donc c'est le comité de jeunes.
Le centre des jeunes dirigeants.
Dont fait partie Pierre-Yves Loaec, qui est le fondateur des Bureaux du Cœur. Donc en fait, ça a débuté en 2017 au retour d'un repas chez des amis à lui et sa femme qui accueillaient un migrant en fait chez eux. Et du coup, sa femme lui a proposé d'en faire de même. Mais il était un peu réticent au début parce que trouvait que c'était peut-être un peu intrusif d'accueillir quelqu'un qui ne connaissait pas au sein de sa maison, de sa famille. Mais le temps est passé, l'idée a mûri, et puis à côté de son entreprise, il voyait une femme qui dormait dans une bouche d'aération de parking. Donc il la voyait le soir, le matin. Ça lui a fait réfléchir. Il a décidé de réunir une dizaine de jeunes dirigeants au sein du CJD pour parler de cette idée d'ouvrir les bureaux à des personnes en situation de précarité, parce qu'en fait il faut savoir que 30% du temps, les bureaux ne sont pas occupés, donc le soir, les week-ends et même voire les jours de télétravail ou pendant des vacances. Donc il a fallu réfléchir à pas mal de sujets, notamment tout ce qui était juridique, assurance, voir comment rencontrer les associations partenaires, tout ce qui est en fait suivi social des personnes en situation de précarité.
On va revenir justement sur les associations partenaires un peu plus tard. Pour l'instant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le processus ?
Alors, il faut savoir que on travaille systématiquement dans une logique tripartite, donc c'est-à-dire qu'il y a une signature d'un contrat avec l'entreprise hôte, l'invité, donc la personne en situation de précarité, et l'association partenaire, tout ce qui va être suivi social. Ça va être l'association qui va remplir un formulaire avec le profil de l'invité. Et nous, en fait, on va proposer le profil à des entreprises hôtes qui correspond aussi, par exemple, s'il a un travail au niveau géographique. Et suite à ça, donc, on a un premier rendez-vous d'accueil où on va accueillir l'invité au sein de l'entreprise. Donc au préalable, avec l'entreprise, il y a un état des lieux un peu de l'aménagement en fait de l'entreprise, de l'espace qui va accueillir l'invité. Et ensuite, il y a un suivi mensuel chaque mois de l'invité. C'est des contrats de 3 mois renouvelables jusqu'à 6 mois. Après, si l'invité trouve un logement pérenne entre-temps, le contrat peut se finir plus tôt.
En général, il y a combien de temps passé dans ces logements, dans ces locaux justement par les invités ?
Il me semble qu'il y a entre 65 et 70% des accueils qui durent entre 3 à 6 mois. Après, il y a 7% qui peuvent durer un peu plus de 6 mois quand, en fait, on voit que l'invité est sur le point de trouver un logement pérenne. Donc, on se dit, on peut au moins lui laisser un peu plus de temps pour que, voilà, que la sortie soit positive. Voilà.
Ouais, c'est plutôt sur du court terme, du coup.
Okay, donc c'est temporaire, c'est vraiment un sas en fait entre la situation de précarité et le mieux en fait pour le pour l'après quoi.
Ok. Et donc vous avez combien d'invités, de bénéficiaires à peu près sur l'antenne de Nantes?
Actuellement, je crois qu'il y a 25 accueils en cours. Sur Nantes, on a accueilli un peu plus de 120 invités depuis la création des bureaux du cœur.
D'accord, ok. Et donc, il y a l'antenne de Nantes. Est-ce que vous avez d'autres antennes aussi un peu partout en France?
Oui, actuellement, il y a 38 délégations en France. Et après, il y en a à Bruxelles, à Lisbonne et à Barcelone.
D'accord. De votre côté, vous, donc, vous n'êtes pas salarié de l'association. Vous êtes bénévole. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre particulièrement cette association? J'imagine qu'il y a des motivations pour aider les personnes en mal logement ou sans domicile fixe. Mais il y a énormément d'associations qui font ça. Donc pourquoi spécifiquement, du coup, les bureaux du cœur? Qu'est-ce qui vous a motivé?
Mais en fait, c'est que où je travaillais avant, c'était juste à côté d'un centre d'accueil, justement, un centre d'accueil de nuit. Pour les personnes qui n'ont pas de logement. Et du coup, c'est touchant en fait, de voir autant de personnes qui déambulent dans la rue, qui n'ont pas de logement. Et en fait, on en parlait avec mon conjoint en se disant, c'est vrai que on voit que nos bureaux, ils ne sont pas utilisés les soirs ou même les jours de télétravail, etc. Il doit y avoir des moyens qu'on peut mettre en place pour pouvoir les accueillir. J'avais le temps de me consacrer à du bénévolat. Donc, j'ai été sur le site jeveuxaider.gouv. Donc là, ça recense en fait plein de missions de bénévolat. Et je suis tombée sur les bureaux du cœur et je me suis dit, mais en fait, ça existe, c'est génial. ça me permet de me sentir utile et de prendre comme j'ai du temps, je me dis, autant le pouvoir m'en servir pour aider les personnes qui en ont vraiment besoin.
Parmi les personnes que vous aidez, il y a des prérequis pour bénéficier du service de l'asso, du coup, en tant que personne dite précaire, donc qui peut bénéficier des logements de l'association?
Oui, du coup, il y a plusieurs critères sur lesquels on va se baser pour valider, on va dire, un profil. Il faut que la personne soit majeure, qu'elle soit seule. Il ne faut pas qu'il y ait d'addiction avérée. Il faut qu'elle soit régularisée ou à minima en situation de régularisation. Et qu'elle soit suivie en fait par une association, donc c'est-à-dire dans un processus d'insertion ou réinsertion, par exemple pour les cas de personnes ex-détenues ou voilà.
Oui, parce que justement, il y a aussi parmi les sans domicile fixe, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont potentiellement avoir des problèmes psy à force d'être dans la rue, qui vont avoir justement ces soucis d'addiction de par le temps passé dans la rue et tout. Pour quelles raisons, du coup, ces personnes-là peuvent plus difficilement candidater à l'association? C'est une question technique
En fait, c'est tout un autre suivi, là. S'il y a vraiment une addiction, des problèmes psychologiques assez marqués, c'est un suivi plus élevé, plus poussé. Donc, on n'est pas actuellement en capacité. Puis, en fait, il faut aussi que les collaborateurs se sentent en sécurité aussi dans les entreprises, parce que elles sont aussi régulièrement en relation avec l'invité au cours de l'accueil. Donc c'est important que tout le monde se sente en sécurité et se sente à l'aise aussi voilà, dans la situation, en fait, dans l'accueil.
Donc Dominique Goubou, vous rejoignez ce postulat-là ?
Oui, oui. D'abord, l'entreprise n'est pas armée pour s'occuper d'une personne invitée sur la partie insertion et sur le volet social. C'est pas notre boulot, nous. Par contre, comme on a du contact avec l'invité quelques fois toute la journée, puisqu'il peut être dans l'entreprise à tout moment, 24 heures sur 24 sur le principe, on boit des cafés, on boit un coup. L'autre jour, on avait des croissants, on n'avait pas fini, on lui a donné. Enfin, c'est presque quelqu'un de l'entreprise. Donc du coup, on n'est pas armé s'il y avait une déviation de son comportement pour faire face à ça. Nous, il faut sur le principe qu'on mette toutes les conditions d'accueil et que la personne invitée soit aussi consciente qu'elle fait partie d'un système, d'un écosystème, donc il doit être conscient de ça. Et c'est en ce sens que quand ça se passe super, enfin en l'occurrence, ça s'est toujours très bien passé pour nous, on est super content de donner un coup de main, quoi. C'est chouette.
Et donc ces personnes précaires, donc vous parliez d'associations de suivi et de contrats tripartites, j'imagine que vous vous appuyez aussi sur des associations tierces pour, d'une certaine manière, les personnes sans domicile fixe ou précaires qui ont besoin de ce logement. Vu que ce n'est pas votre cœur d'expertise, j'imagine qu'il y a aussi des partenariats.
On est en partenariat avec des associations, je crois qu'il y en a 150 en France avec lesquelles on est en partenariat. Et ces associations vont être là en fait pour suivre l'invité tout au long de son insertion, sa réinsertion, donc tout au niveau en fait logement, travail, social. Ces associations là sont là aussi pour s'assurer que ça se passe bien entre l'entreprise hôte et l'invité et pouvoir faire la médiation si jamais il y a des soucis, en fait, des problèmes qui remontent.
Donc, si on veut mettre ces bureaux à disposition, Dominique, en tant que chef d'entreprise, c'est plutôt récent, cette adhésion à l'association, ou alors vous êtes, au contraire, plutôt un partenaire de longue date ?
Alors, c'est récent, nous, ça doit faire 6 mois. On est à notre deuxième invité. Je connais bien les bureaux du cœur parce que le dirigeant fondateur est un copain et je voyais l'association grandir, mais sans mettre vraiment intellectuellement et bêtement, pas poser la question de comment on faisait. Et puis en fait, on a eu un petit déclenchement étonnant. On a un agent de propreté, une femme, qui bosse dans une entreprise pour faire le ménage dans la boîte, mais elle est salariée d'une autre entreprise et on la connaît depuis 5 ans. Et un jour, on apprend, mais un peu par hasard, qu'elle habite dans sa voiture. On se dit, comment ça ? Elle habite dans sa voiture. Bon, donc on lui en parle, on la connaît bien. Hein. Elle fait de la propreté, du ménage en journée. Donc on la voit toute la journée. Et on se dit, comment ça se fait ? Et elle nous raconte qu'elle habitait chez sa fille qui était étudiante à Nantes. Et puis ses études sont... Donc elle avait les moyens de se payer un logement. Et puis on s'aperçoit que sa fille est partie, elle fait sa vie post-étudiante, et elle n'a plus les moyens. Donc elle dort dans sa voiture. Mais c'est pas possible, ça. On appelle les bureaux de cœur qui nous expliquent qu'il faut une association tripartite d'insertion et que cette dame, en l'occurrence, a ses problèmes de fric, mais globalement, va bien. Donc on lui dit, tant pis, on la connaît bien, on lui prête un bureau, on aménage le bureau, on trouve un lit. D'ailleurs, c'est tous les gens de la boîte qui vont amener, l'un une table de chevet, l'autre un plumard, une télé, enfin... on a acheté du linge, on l'a installé comme une amie de passage, finalement.
Qu'est-ce qui est demandé en termes d'aménagement de la part des entreprises, justement vous avez parlé d'un lit, j'imagine qu'il doit y avoir un frigo, potentiellement.
Oui, c'est une chambre autonome, fermée, individuelle. Et puis ensuite, il faut une cuisine, des toilettes, une douche, de tout. C'est tout ce qui est demandé. Donc il faut quand même un peu de confort. Il faut quand même que les gens se changent chez eux. Presque chez eux. Donc il faut que l'entreprise s'organise. Après, on a d'autres sujets. On a l'assurance. Donc il faut qu'on bosse avec notre assureur qui veut bien intégrer dans l'entreprise quelqu'un qui n'est pas salarié. Ensuite, on a les sujets de l'alarme, de la clé, puisque la personne est là 24-24. Donc quand on a une alarme, il faut faire des chemins, des neutralisations d'alarme pour savoir qu'elle est là, et qu'il peut se passer quelque chose. C'est pour ça que c'est interdit d'amener quelqu'un de l'extérieur dans l'entreprise. C'est que la personne invitée que l'on accueille et pas ses amis, ses copains, ses enfants. Et puis après, on travaille sur la confiance. On lui donne les clés. C'est comme si vous donnez les clés de votre appart à quelqu'un que vous connaissez à peine. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Donc, on travaille sur la confiance. Donc, c'est un contrat. L'entreprise, l'invité et la sauce avec les bureaux du cœur. C'est un contrat. Donc, on est tape dans la main, quoi. C'est un contrat écrit. OK, mais à la fin, on est là pour insérer. On est là pour donner un coup de main. On est là pour être un peu citoyen, quoi. C'est ça, l'idée.
Du coup, vous imaginez que vous avez pu rencontrer potentiellement d'autres chefs d'entreprise qui mettent à disposition leurs locaux. Margot, de ce côté-là, quels sont les profils de chefs d'entreprise qui mettent leurs locaux à disposition de l'association? Dominique, donc, ici présent, donc chef d'entreprise d'imprimerie, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça va être aussi souvent dans ce type d'entrepreneur, ou alors il va forcément y avoir des grands bureaux nécessaires, des plus petites entreprises? C'est quoi le profil?
Il n'y a pas vraiment de profil, parce que moi j'ai fait un accueil dans un entrepôt où c'était chauffé, etc., mais c'était un entrepôt de stockage. Sinon, il y a des agences de communication, il y a des agences, des boîtes informatiques. En fait, il n'y a pas de... Il y a des boîtes RH, des cabinets de recrutement. En fait, tout le monde peut...
Le seul critère, c'est de pouvoir accueillir la personne, c'est-à-dire lui donner une chambre digne de ce nom, avec un petit peu de confort, comme si on était dans une chambre, dans un appart, finalement, et puis des sanitaires, de quoi faire bouffer. Voilà. Et voilà, c'est le seul critère, finalement. Oui. Donc propre, avec des ustensiles classiques d'une chambre, quoi, c'est tout.
Ouais, vous diriez que c'est plutôt faisable par à peu près n'importe quel chef d'entreprise?
Absolument. Alors, pour répondre à la question, si vous me permettez,
allez.
Le profil des entrepreneurs qui font ça sont souvent des entreprises dont les dirigeants possèdent leur entreprise. Ça, parce que si c'est un groupe avec un siège social, c'est plus compliqué, c'est plus long, il faut convaincre. Alors ça peut arriver, mais il y en a,
mais c'est plus long.
Plus long. Ensuite, c'est souvent des dirigeants qui ont une vision humaniste de leur entreprise. Parce que finalement, on fait plein de choses pour nos collaborateurs dans ce type d'entreprise, et qu'on se dit faire ça pour quelqu'un de l'extérieur, finalement, c'est pas grand-chose. Il y a un moment, c'est juste un tout petit effort. Alors, c'est emmerdant en termes de juridique, clés, alarmes, OK, mais c'est un tout petit chose. Donc, en fait, on a des milliers de mètres carrés. Il faut juste convaincre les gens en disant on peut donner un coup de main. On donne juste un coup de main. C'est pas simple, pas compliqué. Enfin, c'est juste...
Être solidaire,
c'est chouette, quoi.
Ouais.
On est solidaire. Et puis, on a... Voilà. Donc, moi, c'est mon troisième invité. Bah, les deux premiers, ils ont rebondi. Ils ont retrouvé une vie normale ou presque normale. Bon, c'est chouette, quoi. On a donné un coup de main. Voilà, tout simplement.
Niveau juridique, il n'y a pas... Vous disiez qu'il y a eu quelques complications.
C'est des complications de discussion avec notre assurance. Parce que s'il se passe quelque chose dans l'entreprise, l'assurance va venir nous chercher en disant qui est cette personne qui a fait tel dégât ou machin.
Oui, donc au final,
donc
c'est...
Donc il faut l'inclure dans les contrats. Donc il faut re-signer les contrats. Mmh. C'est pas forcément un sujet de fric. C'est juste un sujet juridique d'assurance,
ouais,
tout simplement.
Déclaratif, quoi, finalement.
Oui, et puis les bureaux du cœur ont aussi des accords avec des assureurs au niveau national, ce qui a facilité les choses, parce qu'il y a un des assureurs avec qui on était, qui nous assurait. Donc fondamentalement de difficultés.
OK. Margot Dacosta, donc je reviens vers vous, par rapport aux perspectives de l'association au niveau développement. Donc les rares salariés de l'association, ils sont plus sur le développement que sur l'accompagnement des bénévoles et des entreprises. Quelles sont les perspectives, les pistes d'amélioration? Est-ce que vous voulez vous étendre dans d'autres villes? Est-ce que vous voulez étendre le réseau local, par exemple sur Nantes ou sur Paris?
Oui, les salariés sont plus sur le développement. Là, actuellement, ce qui est un peu en cours, c'est pour les plus grosses délégations, on structure en fait les délégations. Par exemple, Nantes, en fin d'année, on a commencé à structurer en plusieurs pôles. Donc le pôle communication, le pôle coordination des accueils, le pôle partenariat avec des associations, des entreprises, et le pôle prospection d'entreprises hôtes. Voilà, donc ça permet de structurer, de mieux s'organiser parce que bah, y a de plus en plus d'entreprises, plus en plus d'invités qui nous sont envoyés et puis bah, y a de plus en plus de bénévoles aussi. Donc ça nous permet voilà, d'être plus structurés.
Plus l'association se développe, plus elle doit se professionnaliser. C'est comme une entreprise, on démarre à deux, mais quand on est 50, il faut structurer. Et comme c'est une chaîne sans fin, parce que hélas, il y a des besoins immenses, bah, si on veut faire de la croissance d'accompagnement, il faut professionnaliser tous les secteurs, comme tu l'as dit. Comme dans une entreprise, quoi. On ne peut pas tout faire tous, on n'est pas compétent partout, il y a d'autres sujets à développer. Et ça, malheureusement, le marché, il est immense, hélas. Mais bon, ce qui est bien, c'est que c'est structuré, c'est organisé, et c'est un peu vu comme une entreprise, parce que c'est été pensé par un entrepreneur. Non pas que les bureaux du cœur soient là pour faire du résultat ou du profit, c'est pas ça du tout, c'est plutôt qu'il faut un certain nombre de gestions, de responsabilités, d'engagement, et sur le principe, ça ne s'arrête jamais. Quoi. Mmh. C'est ça qui est top. Et puis c'est super vertueux. Hein. Tout le monde a la banane, hein. Il n'y a que des bonnes nouvelles.
Bah, ce qui peut être la limite, ça peut être forcément, comme d'habitude, dans une association, c'est les financements. Du coup, comment est financée l'association? C'est via des subventions, via des dons?
Les entreprises hôtes, quand elles adhèrent, quand elles deviennent hôtes, elles peuvent donner une cotisation en fait à l'année, donc au choix. Et voilà, après, bah, y a les bénévoles qui adhèrent à hauteur de ce qu'ils souhaitent aussi.
Elles peuvent, c'est qu'elles doivent.
Oui,
les
entreprises,
elles doivent payer. Il y a différents étages d'engagement, mais ouais, pour y être, il faut payer. C'est-à-dire que les entreprises acceptent de payer pour recevoir un invité.
Ça a un peu changé ces derniers temps.
Mais il y a un minimum syndical, si j'ose dire. Il y a un deuxième palier pour dire l'association vit bien. Et puis si vous êtes un extra mécène, ben, il y a un troisième. Donc il faut payer, quoi qu'il arrive. Mais ça me va très bien. Je trouve que c'est normal.
Ça a changé l'adhésion, ça a changé ces derniers temps. Il n'y a plus de minimum.
D'accord.
On préconise en fait
oui,
pour la vie de l'association, etc., et l'embauche des salariés, mais il n'y a plus de, ouais, y a plus de minimum pour les futures adhésions, du moins.
D'accord. Et vous aviez payé combien à peu près l'adhésion à l'époque ?
Je crois me rappeler que c'est 1500 euros.
D'accord.
Et que c'est défiscalisé.
Et c'est défiscalisé,
ouais, voilà.
Forcément.
Donc ça coûte 500 en entreprise. Ouais, on paye 1000, mais en fait, en défis, c'est 500.
Et il faut savoir que ça peut, bah, ça aide des personnes, ça peut sauver des vies, des avenirs, donc c'est vrai que c'est important quand même, les participations, les adhésions, c'est très important.
Ouais. Ce qui est un truc marrant, mais étonnant, c'est qu'on a eu une grosse vague de sympathie dans l'entreprise. J'expliquais tout à l'heure, quand on a dit bah, il faut qu'on ait un plumard, une chaise, un bureau, une télé, un ordi... Y a plein de gens qui disent « Oh, bah, j'ai un plumard chez moi qui ne sert à rien. » Il y en a qui a amené une petite lampe de chevet. Il y en a qui a amené un frigo. Bon, on a acheté ce qui manquait, mais finalement, tous les gens se sont dit « Bah, on va donner un coup de main. » Toute la boîte, on a mis une annonce, on dit « Voilà ce qu'on veut faire. » Puis finalement, ils ont trouvé un copain. Hein. Et en plus, ils ont trouvé un copain. Bon, qui est juste chiant parce qu'il ne reste pas longtemps. Mais on est content qu'il parte, finalement, parce que ça veut dire qu'il va mieux.
Ouais.
Mais bon, c'est... Mais c'est un vrai sujet de boîte, finalement. C'est un vrai moment de partage.
Merci Dominique et Margot d'avoir été présents dans Mégaphone. Donc je rappelle, Margot, vous êtes bénévole de l'association Les Bureaux du Cœur. Et Dominique, chef d'une entreprise d'imprimerie basée à La Chapelle-sur-Erdre. Le nom,
vous l'avez ? Goubeau Imprimeur.
Goubeau Imprimeur. Donc merci à vous et bon après-midi.
Merci de nous avoir accueillis.
Merci de l'accueil.
Merci d'avoir écouté Mégaphone. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chemin d'Afrique. Bonne soirée sur Jet.
Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Vous entendez derrière moi l'eau de l'Uine ruisseler au niveau du barrage de l'Épau au Mans. Et c'est ici que Le Mans Métropole a entrepris un projet de restauration de la continuité écologique de cette rivière de l'Uine avec la mise en place d'une passe à poissons. Et pour en parler, nous sommes avec Hélène Thomas, technicienne GEMAPI à la direction eau assainissement de la Métropole. Bonjour.
Bonjour.
Ainsi que Marcel Mortreau, vice-président délégué à l'eau et l'assainissement, la gestion des cours d'eau et la prévention des risques majeurs. Bonjour.
Bonjour.
Alors tous les deux, déjà, peut-être expliquer ce projet de restauration de continuité écologique et de passe à poissons. Comment et pourquoi, finalement, la Métropole du Mans a souhaité mettre ça en place, monsieur Mortreau?
Alors je dirais que c'est un projet ambitieux qui est conduit par Le Mans Métropole, qui vise trois objectifs. D'une part, je dirais, fiabiliser la production d'eau potable, si on a une usine à proximité, c'est de restaurer la continuité piscicole et c'est d'avoir une production d'électricité. Et cette électricité qui sera produite permettra en partie d'alimenter l'usine de l'eau.
Un projet à plusieurs phases. On va surtout se concentrer, nous, sur cette continuité piscicole que vous évoquiez avec la création d'une passe à poissons, Hélène Thomas.
Donc, en fait, le barrage étant indispensable, comme vient de dire M. Mortreau, pour la création d'eau potable, il crée malheureusement une chute que les poissons ne peuvent pas remonter comme ça. Donc, du coup, on a créé une passe à poissons, une passe à bassin successif, afin que les poissons puissent remonter de l'aval en amont pour aller se reproduire sur le bassin versant de l'Uine, dans des cours d'eau plus petits. Donc ça fonctionne comme un escalier en fait, c'est plein de petits bassins avec des petites marches que les poissons peuvent franchir en nageant.
Si on essaye de donner un peu d'image à la radio, je sais que c'est pas forcément évident, de ce que l'on a là en face de nous, comment ça se caractérise et comment ça se met en place finalement?
Sous le pavillon, sous le bâtiment, donc il y avait une ancienne turbine qui a été retirée et on a créé différents bassins qui zigzaguent sous ce bâtiment pour ressortir. Donc il y a un certain débit qui va passer par cette passe et les poissons qui vont arriver à l'aval vont se rendre compte qu'il y a ce débit et ils vont être attirés et puis ils vont pouvoir rentrer dans la passe et franchir les différents bassins.
C'est des travaux qui ont commencé en juin 2024 et qui vont se terminer, qui devraient être terminés en fin d'année avec, pour terminer, l'aménagement des berges qui sont à proximité.
L'idée, en fait, c'est de restaurer la continuité écologique sur l'Uine dans toute la traversée du Mans, puisque effectivement, le Mans, en fait, c'est le début du bassin versant de l'Uine et que si on veut améliorer la circulation piscicole, mais également sédimentaire, puisqu'il y a aussi les sédiments qui doivent circuler, eux, dans le sens inverse, hein, d'amont vers l'aval. Il faut restaurer cette ouverture.
Ça concerne forcément toute la biodiversité de l'Uine, mais aussi les habitants autour de la rivière. Les pêcheurs, notamment, s'inquiétaient de ne plus avoir de poissons dans l'Uine, ce ne sera pas le cas.
C'est justement l'inverse. L'objectif, c'est qu'ils puissent circuler et aller se reproduire en amont. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a concerté avec les gens pour avoir leur avis, pour pouvoir amender notre projet par rapport à des choses auxquelles on n'aurait potentiellement pas pensé. Donc on les avait déjà rencontrés, une partie des personnes en septembre. Donc là, on les a revus le 7 février. Donc le projet, il est amendé à la marge avec les petits éléments qu'on nous a demandé et qui sont possibles d'intégrer. Donc ensuite, les berges seront restaurées, mais il y aura également des aménagements au niveau du plan d'eau de l'île aux sports pour maintenir le plan d'eau. Donc il y aura des zones de pêche qui seront aménagées. Il y a aussi les kayaks. En enlevant le barrage de Pontlieu, on va permettre une diversification des écoulements, donc ça va permettre d'avoir effectivement en plus des nouveaux habitats pour les poissons et de nouveaux lieux de reproduction, mais ça permettra aussi de refaire un certain nombre de berges, donc de favoriser les habitats aussi sur les berges, la nidification des canards et autres. Donc c'est vraiment un projet global pour la biodiversité.
Eh bien merci beaucoup Hélène Thomas, merci également monsieur Marcel Mortreau de nous avoir parlé aujourd'hui de ce projet de passe à poissons sur la rivière de l'Uine et on se dit à bientôt sur notre antenne.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
C'était L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de La Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.
Un reportage de Benoît Porcher pour RCF Sarthe.